avec Jean-Pierre Petit, qui sera donc l'un des invités du festival Sciences Frontières à Cavaillon à partir d'après-demain. Il tiendra conférence et donc il ira encore plus loin dans les propos. Enfin, quand je dis plus loin, il aura le temps de répondre à toutes les questions. Donc, astrophysicien, directeur de recherche au CNRS, ses ouvrages, On a perdu la moitié de l'univers. Je dirais que toutes les théories que vous développez dans cet ouvrage, entre autres, sont consécutives à ces textes humides que vous avez eus dans les mains.
Je pense. Hein? Et je voudrais maintenant dire, c'est une toute petite parenthèse, pourquoi tout d'un coup, après 6 ans de silence, je me mets à tenir des propos qui, pour mes collègues, sont perçus comme extrêmement provocateurs. Hein? Il y a des collègues qui vont me dire, mais tu parles de nouveau de ces choses-là, tu vas te discréditer. Mais je dirais que, en restant 6 ans silencieux, ça n'avait strictement rien changé. J'ai été interdit de parole dans un colloque en 99, un type disant, s'il prend la parole, je m'en vais. Enfin, je veux dire, l'hostilité du monde scientifique est une chose très réelle. Donc, c'est pas la peine.
Non, mais la norme l'emporte dans toutes les époques. Ça, c'est le bon.
Autant parler, ça sert.
Oui, c'est pour ça, vous avez raison.
Autant parler. Si c'est pour que les gens vous fassent la gueule, autant que ce soit pour quelque chose.
Les tenants des théories dominantes, voilà. Non. Mais je vous aurais jamais la moindre.
Il y a une chose que j'ai vécue il y a 3 pays. J'ai un vieux copain que je suis très lié avec lui depuis 25 ans. C'est un grand scientifique. C'est un type solide, intègre, qui a une grande qualité, qui a découvert des tas de choses. J'ai beaucoup d'estime pour lui. Mais à chaque fois qu'on parle de ces choses-là, il me disait à chaque fois, tu connais mes idées. Il m'arrêtait. Puis à un moment, je lui dis, mais est-ce que tu as lu des livres là-dessus? Il m'a regardé en me disant, ben non. Mais est-ce que tu as lu mes livres? Ben non. Et j'ai pas insisté. Mais vous voyez, 99% des scientifiques se prononcent sur un sujet dont ils ne connaissent strictement rien.
Mais non, parce qu'ils partent du principe qu'ils n'ont pas le temps de s'intéresser.
Ça n'est pas intéressant.
Voilà.
C'est pas la peine que je m'y intéresse, car
voilà.
Ça n'est pas intéressant.
C'est l'hérésie, ça sort trop de ce qui était mon cheminement intellectuel, ma voie de la connaissance, voie de connaissance authentifiée par des prix, et c'est donc cette bonne filière.
Il y a de pas de filière. Vous ne ferez pas un débat télévisuel avec des camps scientifiques, parce qu'ils diront, je vais pas aller dans un truc comme ça, j'ai autre chose à foutre.
Alors, pour autant, je reste sur des idées, non pas que j'aime le spectaculaire pour le spectaculaire, mais ce qui nous intéresse, c'est qu'ils... Et il y a pas mal de chercheurs, hein. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, des professeurs en médecine, etc. Mm-hmm. Parfois, ils demandent l'anonymat, mais je vous assure, j'ai énormément de courriers. Et donc, ça prouve que il y a la face, et puis il y a également ce que l'on trouve côté court. Hein. Eh bien, donc, simplement, les faits aussi invraisemblables que celui de tout à l'heure, vous en citez 2 ou 3 autres exemples. À un moment donné, vous êtes à Madrid avec votre femme, là aussi, et vous vous retrouvez dans l'incapacité de bouger, vous sentez une personne autour de vous et une intervention qui se fait sur vous.
Oui, mais ça, encore une fois, j'ai classé ça dans le livre Souvenirs aux rêves. C'est mon témoignage. Bon, c'est tout. Donc,
c'est intéressant parce que comment vous l'incorporez dans votre psyché?
Ben, je vais vous dire une chose. Peut-être que ce genre d'aventure m'a amené à comprendre une chose, c'est que je n'étais qu'un homme parmi beaucoup d'autres. Hein. Donc, il m'arrive des choses comme ça. Je suis un peu traité en combat. Ça ne m'émeut pas plus que ça. Moi, ce qui m'a, je dirais, traumatisé, c'est de prendre conscience de la connerie de l'humanité. On est vraiment comme dans une guimbarde, il n'y a personne au volant, il n'y a personne, et ça fonce à une vitesse folle, et on commence de plus en plus.
Mais disons que, non mais c'est un emballement, mais quand on regarde l'histoire, ça a toujours été comme ça. Alors bon, la technologie ne fait qu'amplifier le phénomène.
Moi, je suis revenu d'Angleterre, j'ai appris ces trucs-là, il y avait de quoi pleurer, quoi, c'est tout.
Mais pour autant, comment arriver à concilier sa vie de terrestre en se disant qu'il y a peut-être ailleurs des civilisations qui possèdent plus d'éléments que nous, qui auraient une certaine sagesse, et de se sentir peut-être... Est-ce que vous avez l'impression parfois d'être manipulé, d'être dans cette hypothèse de civilisation venue d'ailleurs? Est-ce que vous avez ce sentiment-là?
C'est pas le sentiment d'être manipulé, le truc c'est que c'est un sentiment d'impuissance. Je vais écrire un livre, ça servira à rien. On fait cette émission, ça va servir à rien. Ça va peut-être faire réfléchir des gens.
Il y a quand même 1 500 000 personnes qui écoutent, là.
D'accord.
Bah, c'est pas rien.
Bon, c'est pas rien, mais quand même, les scientifiques ne changeront pas d'un poil. Tout le monde continuera à rester aveugle comme ça. Hein. C'est tout. Et ça, on l'a bien vu avec...
Sauf qu'on n'est pas tout à fait aveugle. La meilleure preuve, c'est que les théories que l'on évoquait tout à l'heure, à savoir la gémilité des univers, à savoir l'antimatière, à savoir les formes des galaxies, etc. Bah, tout ça, aujourd'hui, il y a des scientifiques qui travaillent sur ce sujet.
D'accord.
Et qui donc ont une dissonance par rapport à la pensée la plus établie.
Ça commence à émerger. Mais il y a une chose que j'ai pas dite que je voudrais dire aussi, mais très brièvement, les gens se posent la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans les hautes sphères à propos des ovnis? Là, je peux donner une réponse. Il n'y a rien. C'est le vide. si vous montiez dans les hautes sphères européennes, françaises ou n'importe quoi, les gens ne s'y intéressent pas. Il y a pas, alors qu'en Amérique, c'est un sujet hyper, hyper pointu, quoi.
Alors, il y a également un autre domaine sur lequel j'aimerais que l'on s'arrête une seconde, c'est celui de l'hypothèse, parce que c'est une belle hypothèse suggérée dans ces textes humides, qui dit en réalité chaque être composant notre humanité est une sorte de particule, il y a une sorte de ramification globale qui crée une sorte de grand réseau et nous serions en réalité, il y a une sorte d'entité à travers la Terre, c'est ça ?
Mais disons que
un grand cerveau.
Il y a énormément de documents qui ont été émis et reçus, il y en a qui n'ont pas été diffusés. Et on les a pas diffusés parce qu'on a pensé que ça créerait des sectes ou des choses comme ça. Et ces documents traitent de la métaphysique.
Alors justement,
Et la métaphysique, c'est quelque chose qui ne se dissocie pas de la physique. Il y a des gens qui commencent maintenant peut-être à penser à ça, parce que ce qui est aberrant, c'est que pour le scientifique, un être humain, c'est une machine. Vous avez Edelman qui a écrit « Je suis persuadé que nous fabriquerons un jour des gens, des robots pensants et conscients. » Alors nous sommes des robots, nous sommes des machines langagières, disait Lacan, nous sommes des machines cybernétiques. Non, nous ne sommes pas que des machines. Et la conscience, par exemple, quand il y a des livres qui sont du genre « Du singe à l'homme », qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Copas, dans un bouquin, résolvait ça par une entourloupe. Si on devait poser la question « Qu'est-ce que c'est que l'hominisation ? » Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup un primate devient un homme ? Est-ce que c'est quelque chose qui se fait continuellement ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait d'un coup ? Il y a un grand mystère là-dedans.
Non mais de la même façon, qu'est-ce qui permet à la fourmi d'être une sorte de patifoleuse inconsciente et pour autant le groupe fourmi d'avoir une gestion d'ensemble qui donne une cohérence des plus troublantes en or ?
L'hypothèse centrale de la science, c'est tout se passe dans un univers à quatre dimensions. Nous sommes en train de nous parler, j'échange avec vous des ondes sonores et je n'échange que ça. Mmh. Toute communication qui serait extrasensorielle est à proscrire. Or, toute notre physique passe par l'extension du nombre de dimensions. C'est pas 4, ça va être 10. Bon, ben, dans un truc à 10 dimensions, il s'en passe des choses. Il y a des canaux informatifs évidents. On peut pas se limiter à ça.
Mais selon cette théorie, et on terminera là-dessus, c'est quand même formidable parce qu'ils disent, enfin ils suggèrent, que nous pourrions être comme le corps en homéostasie, plus ou moins stable, et où chaque individu, agissant en particule, il a l'illusion de l'autonomie, mais à la fin, ça crée une grande ramification d'ensemble.
Nous sommes même psychiquement des éléments d'un ensemble. Voilà.
Jean-Pierre Petit, merci beaucoup d'avoir eu la gentillesse de renouer avec les médias en notre compagnie. Et puis, ceux qui se trouvent du côté de Cavaillon, ça vaut même la peine de se déplacer, de faire un saut d'avion ou de train, ou de la voiture. Donc, à Cavaillon, à partir du 22 jusqu'au 26, avec entre autres Rémi Chauvin, Patrice Serre, René Péoc, Jean-Pierre Lantin, le père François Brune, Didier Van Kovelaert. Et votre dernier ouvrage, On a perdu la moitié d'univers, c'est un ouvrage à lire parce qu'il ouvre bien des perspectives sur nos curiosités. Merci, à dimanche prochain. Merci.